Chapitre 15. Un mois s'est écoulé. Henri n'oublie pas, la blessure sera longue à se cicatriser. Cependant, s'il est une consolation qu'il ait jamais rêvée comme la plus douce, la plus propre à calmer son chagrin, c'est bien d'avoir près de lui sa mère, sa bonne mère disposée au pardon, à l'indulgence, à la tendresse. Or, cette consolation, il l'a. Et comme Madame d'Agincourt considère qu'elle a une grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé, elle a fait généreusement litière de ses préjugés, de ses antipathies et a poussé le sacrifice jusqu'au bout. Elle a, sans hésitation, installé chez elle la nourrice et le bébé. « On dira ce qu'on voudra, tant pis » répète-t-elle. Et certes, on ne se fait pas faute d'en dire, les bavardages vont bon train. Valérac, dont son dévouement lors de la mort d'Angèle a fait un familier de la maison, en aurait long à raconter s'il voulait rapporter tout ce qui affecte péniblement ses oreilles à ce sujet. Mais à quoi bon tourmenter ses bons amis? Leur part d'affliction est assez grande déjà. Et tous les jours, au contraire, le doux et serviable maniaque apparaît rue du Palais Gallien pour tâcher de distraire les pauvres affligés. Un après-midi, il ne vint pas seul. « Je vous amène une visite, » dit-il en s'avançant le premier et comme s'il eut besoin de s'excuser. En même temps, il s'effaça pour laisser passer Mademoiselle Chabran. Il y eut un instant d'incertitude, d'embarras. Enfin, Madame d'Agincourt se domina. « Bonjour, ma chère Lucienne, » fit-elle. « Vous êtes bien gentille de venir me voir. » « Depuis mon retour, je n'ai guère pu sortir et tout le monde me délaisse. »« C'est une raison de plus pour que vos vrais amis viennent vous voir, » répondit la jeune fille. « Ah, vous êtes bonne, vous, ma chère enfant, » soupira la vieille dame. « Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, que j'ai le plaisir de le constater, » ajouta-t-elle avec un sourire significatif. « Vous êtes indulgente pour les fautes des autres, charitable à toutes les misères. » Mademoiselle Chabran se troubla. Alors Madame d'Agincourt détourna la conversation et Valérac, venant à son aide, on parla de choses insignifiantes, non sans que, de loin en loin, une allusion involontaire aux récents événements vint se glisser dans l'entretien. La glace était rompue. Lucienne revint d'abord au bout d'une semaine, puis deux ou trois fois, à trois ou quatre jours d'intervalle, bientôt plus souvent encore. Et chaque fois, Madame d'Agincourt montrait à la jeune fille une plus vive gratitude pour la courageuse indépendance dont elle donnait la preuve. Car, évidemment, pour agir ainsi, la pauvre enfant devait ou recourir à tout un échafaudage de mensonges afin de tromper la surveillance de sa mère, ou peut-être, chose plus grave, livrer contre sa famille et ses préjugés de véritables et pénibles combats. De toute façon, son mérite était indiscutable. Lucienne, de son côté, paraissait trouver beaucoup de charme à ses visites. Et toujours empressée, affectueuse, elle s'ingéniait à laisser à ses amis l'impression de calme, de repos, de bonheur qu'elle éprouvait elle-même parmi eux. Elle semblait surtout ressentir une joie très douce à tenir souvent dans ses bras la petite fillette, à la couvrir de caresses, à la bercer pour l'endormir. Et elle avait, pour cela, des précautions si délicates, de si tendres câlineries, que la vieille dame et le père principalement en demeuraient tout émus, tout pénétrés d'infinie reconnaissance. Un jour que Mademoiselle Chabran se trouvait seule avec Henri, elle osa demander, un peu à la cantonade, comme si elle se fût adressée à la petite fille qu'elle avait sur les genoux, « Qui donc a eu l'idée de donner à ma chérie le nom de Lucienne ?» Le garde général fut tellement saisi par cette question inattendue qu'il eut de la peine à murmurer « C'est Angèle. »« Ah ? Pourquoi ? Vous ne savez pas ?» Il hocha la tête sans oser répondre ni lever les yeux. Alors Mademoiselle Chabran, après une minute de recueillement, poursuivit « Monsieur Henri, vous ne m'en voudrez pas si je vous rappelle de si cruels souvenirs ?»« Non. » « Je connais trop bien la générosité de vos intentions. »« Oh ! Eh bien, me permettez-vous de revenir sur le passé et d'être franche, très franche ?»« Allez, fit-il les yeux fermés et sans pouvoir réprimer un frisson. La jeune fille dut attendre quelques secondes que les palpitations désordonnées de son cœur se fussent calmées. Puis elle reprit « La mère de votre enfant vous aimait profondément, n'est-ce pas, puisqu'elle n'a pas hésité, elle, à tout sacrifier pour vous rendre heureux ?»«
Je le pense, » soupira Henri.
« Malheureusement, Dieu n'a pas permis qu'elle donnât à ses intentions une réalité durable. »
« Si elle avait vécu, j'aurais, autant que possible, allégé son sacrifice. »«
En l'épousant, oui, vous auriez bien fait, car c'était la meilleure manière d'assurer la solidité de votre bonheur. »« Malheureusement, vous l'avez dit, le temps vous a manqué. »« Ah, c'est atroce de remuer ces souvenirs, atroce pour vous comme pour moi. »« Cependant, il faut que j'aille jusqu'au bout. »« Écoutez-moi. » « Comprenez-vous, Henri, que c'est ma faute si tout cela est arrivé ?»«
Votre faute ? » répéta-t-il effaré.
« Sans doute, si autrefois je n'avais pas, sous un injuste prétexte, repoussé votre affection, auriez-vous cherché ailleurs, dans un autre cœur, un refuge ? Si à ce moment-là, mon manque de courage, de vains préjugés, n'eussent pas étouffé chez moi les sentiments vrais qui étaient au fond de mon cœur, je serais probablement devenue votre femme, c'est moi qui serais la mère de cette chère mignonne. Je serais morte peut-être, mais vous n'auriez rien à me reprocher.
Je ne vous reproche rien, murmura le jeune homme avec une nuance d'amertume.
Si, mon ami, vous devez même me mépriser. Certes, je n'ai pas la vanité de prétendre que l'affection dont vous a entouré votre bon Angèle ne valait pas celle que vous perdiez. Je prétends même le contraire. Angèle était meilleure que moi, puisque, entre son honneur et son amour, elle n'a pas eu d'hésitation. À moi, pourtant, vous demandiez bien moins, vous n'exigez pas le sacrifice de mon honneur, vous ne me demandiez qu'un peu d'énergie. Angèle, je le répète, était donc plus digne de vous que je ne le suis, et vous auriez été heureux avec elle. Mais enfin, aujourd'hui, hélas, je dois me placer devant le fait accompli. Une larme perla la paupière du jeune homme. Lucienne, après s'être recueillie quelques secondes, continua. « Si vous vouliez, Henri, puisque c'est moi qui ai fait tout le mal, je le réparerai. Je serai la maman de votre petite Lucienne, je vous aiderai à l'élever, à en faire une bonne et honnête fille. Dites, si vous vouliez... »
Pendant un instant, le garde général, très ému, ne put parler. Enfin, tendant la main à la jeune fille,
« Non, répondit-il avec un visible effort, je ne puis pas accepter de votre part un pareil sacrifice. Ma conduite vient de provoquer un scandale dont le retentissement n'est pas encore calmé. Incessamment, je vais recevoir ma nomination pour quelque village perdu à 100 lieues d'ici, où je devrai, diront les rapports officiels, aller cacher mon déshonneur. Je ne puis pas, je ne veux pas vous faire partager ma vie dans ces conditions. » « Peu m'importe, à Bordeaux ou ailleurs, je suis prête à accepter ma part de toutes les méchancetés dont on vous abreuvera, parce que vous vous êtes conduit en homme de cœur. Je considérerai tous ces ennuis comme une épreuve, et je la supporterai à vos côtés avec plaisir, en punition de mon orgueil. » « Non, Lucienne, vous le regretteriez plus tard. Si vous ne me le reprochiez pas, ce dont je suis persuadée, car vous avez l'âme trop haute, vous en souffririez. » J'ai plus d'expérience de la vie que vous. Mon devoir est de vous mettre en garde contre les entraînements de votre générosité.
Je vous jure, mon ami, que si vous vouliez...
D'ailleurs, interrompit Henri, l'opposition de votre famille, qui nous a séparés jadis, subsiste. Que dis-je, elle serait 1000 fois plus vive maintenant.
Tant pis, je la briserai. Ou bien j'obtiendrai le consentement de mes parents... ou bien je passerai outre. Je suis majeur, vous me l'avez dit autrefois. »
Le jeune homme secoua la tête.
« J'avais tort dans ce temps-là de vous pousser à la révolte. On n'y gagne rien, je l'ai vu depuis. Avez-vous pensé à l'affreux scandale si vous vous révoltiez contre la volonté de vos parents ? Oh non, non, je ne veux pas compromettre votre bonheur, sacrifier votre avenir. »
« Ah, vous ne m'aimez plus, Henri, vous ne m'aimez plus !» s'écria Lucienne, la voix toute pleine de larmes. Hélas, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai mérité tous les châtiments. »
Le garde général était à bout de force. Ce cri, cet appel suppliant, réveillait dans son esprit des souvenirs si poignants qu'il se sentait faiblir. Il se leva pour échapper à l'obsession, en l'angoisse qui le faisait défaillir. Lucienne, tenant le bébé dans ses bras, n'osa pas bouger, mais toute son énergie se concentra dans une suprême adjuration.
« Henri, je vous en prie, je vous en conjure, si vous ne faites pas cela pour moi, faites-le pour votre enfant !»
Le jeune homme retomba brisé sur sa chaise. Puis, de la chaise, ses genoux glissèrent jusqu'à terre. Il était aux pieds de Mademoiselle Chabran.
« Ah, Lucienne » murmura-t-il vaincu. « Lucienne, votre dévouement l'emporte. J'accepte votre sacrifice. Puisse-t-il ne pas vous paraître trop lourd plus tard ?»
Et leurs mains s'unirent dans une longue étreinte de silencieuse reconnaissance pendant que la petite Lucienne achevait de s'assoupir sur les genoux de celle qui s'offrait à lui servir de maman. Le père et la mère Chabran, de guerre lasse, ont fini par consentir à l'union de Lucienne et d'Henri. À une condition, cependant, c'est que le mariage aurait lieu loin de Bordeaux. En gens prudents, ils n'ont pas osé braver l'opinion ouvertement. De son côté, la jeune fille, prise d'un scrupule, a mis une autre condition. Henri, repoussé jadis à cause de son manque de fortune, est presque riche maintenant. On pourrait supposer que ce changement de position est la raison de son revirement. C'est ce qu'elle n'a pas voulu à tout prix, car le moindre soupçon de ce genre empoisonnerait le bonheur qu'elle rêve. Aussi a-t-elle exigé que son fiancé disposât, d'une grande partie au moins, de sa fortune en faveur de quelques bonnes œuvres. Henri a, pour ainsi dire, prévenu ce désir et l'a satisfait à peine formulé. Il a fait don à la mère Mazerin d'une somme représentant 5 000 francs de rente afin que la pauvre femme pût se soigner, élever convenablement ses fillettes et s'assurer une vieillesse tranquille à l'abri du besoin. De la sorte, tout le monde est content, surtout la mère Mazerin qui trouve que, dans le fond, les bourgeois ont du bon. La disgrâce dont on menaçait le garde général n'a pas été bien terrible. On l'a envoyé se dépayser à Montpellier, que son climat recommande comme une villégiature agréable. Franchement, il aurait mauvaise grâce à se plaindre. Aussitôt après la célébration du mariage, le jeune ménage est allé s'installer dans cette nouvelle résidence. Madame d'Agincourt les accompagne. Quant à Valérac, il ira souvent les voir, car il a renoncé à faire fortune et n'aspire plus qu'à jouir du repos en partageant son temps entre ses vieux parents dont il n'oublie pas les bontés et la nouvelle famille qu'il a quelque peu, et il en est fier, contribué à fonder.